French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Salut et bienvenue dans French Expat. Moi, c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes. Si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce, dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde afin de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec vous et avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Amandine. Amandine est expatriée à Sydney, en Australie. Dans cet épisode, Amandine vous invite au voyage au fin fond d'une province ouvrière du sud-est de la Chine, puis au cœur des Rocheuses au Canada, pour enfin terminer sur la côte est australienne, sur les hauteurs de Sydney. La discussion est sans tabou. On parle ainsi de choc culturel, de soif de découverte, de mariage, de résidence permanente, de l'hiver canadien, mais aussi de maternité loin de sa famille, de l'apprentissage que représente le fait de devenir maman quand on est expatriée. Personnellement, j'ai de mon côté fait mes études d'ingénieur avec Amandine il y a 12 ans, ça fait un petit peu mal de compter, et j'ai vraiment adoré suivre ses aventures aux quatre coins du globe. Aujourd'hui, Amandine vit donc en Australie avec son mari et ses deux fils et elle prépare son retour en France après plus de 12 ans passés loin de ses proches. C'est un épisode dense et vraiment passionnant. Alors, deux petites choses avant de nous lancer. Nous avons eu quelques petits soucis techniques pour l'enregistrement de cet épisode. Malheureusement, du coup, les premières minutes sont peut-être un petit peu moins bonnes en termes de qualité audio que d'habitude. Et deuxième chose, Amandine, ne voulant pas réveiller son petit bébé qui dormait, a fait l'interview un petit peu en extérieur. Ce qui fait que les premières minutes également, vous allez entendre les oiseaux australiens. J'espère que vous ne nous en voudrez pas et que vous vous accrocherez parce que l'épisode en vaut le détour. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous présente Amandine. Eh ben bonjour Amandine et bienvenue sur le podcast.
Salut Anne Fleur.
Merci beaucoup de t'être rendue disponible. Alors, tu nous parles de où aujourd'hui ?
De Sydney, en Australie.
D'accord.
Et donc, Il fait un magnifique 27 degrés à l'heure actuelle.
Génial. C'est pas très très sympa de faire envie comme ça aux copines. Alors, pour moi, on est mercredi soir à 21h17. On est quand chez toi ?
On est jeudi à 12h17.
Tu es partie au Canada, tu es partie en Australie.
On va en parler Chine avant le Canada.
C'est vrai.
Il y avait la Chine avant le Canada.
C'est vrai. Je me souviens de ta newsletter que tu nous envoyais tous les 10-15 jours. C'était assez rigolo. Alors, avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en fait à quoi ressemblait ta vie avant ta première expatriation ?
Je suis née et j'ai grandi en Moselle, donc entre Metz et le Luxembourg. Je suis née dans un village de 1400 habitants et on a fait un gros déménagement quand j'avais 2 ans. On est passé d'une d'un côté du village à l'autre côté du village. Et jusqu'à ce que je fasse mes études, donc jusqu'au bac, on n'a pas déménagé. D'ailleurs, mes parents sont toujours dans la même maison depuis 30 ans. Voilà. Donc, pour nous, c'était la vie sur les trois frontières parce que le Luxembourg, l'Allemagne et la Belgique sont tous à moins de 40 minutes. Donc, on traversait un peu... en fonction des prix, en fait, en fonction des prix de l'essence, des prix de l'alcool, des prix des habits, rien de super, super exotique. Petit village très, très sympa, en fait, quand j'y repense maintenant. À l'époque, je pensais que c'était un peu ennuyeux, mais en fait, c'était super sympa parce qu'on pouvait jouer au foot, en gros, au milieu de la route. Et de toute façon, les voisins s'arrêtaient parce qu'ils savaient qui on était. Donc, à monter aux arbres et voler des pommes chez les voisins et des trucs du genre. On a commencé, on faisait des petites vacances en France avec mes parents. Donc on partait tous les ans, mais plus ou moins dans le sud de la France, en montagne, tout ça, jusqu'à ce que j'ai 14 ans. Et à 14 ans, en gros, mes parents ont fini de payer leur maison, donc ils ont décidé de dépenser cet argent pour commencer à voyager. Et donc on a fait un premier voyage, donc dont je me souviendrai toute ma vie, en Égypte quand j'avais 14 ans. Et donc là, on est parti en Égypte, et ensuite tous les ans. Et d'ailleurs, mes parents le font toujours. Mais ensuite, tous les ans, on partait à l'étranger. Donc, on a fait l'Égypte, la Bulgarie, on a fait Cuba, on a fait la Tunisie, on a fait la Turquie, la Crète. Enfin, quelques endroits un petit peu sympas qui ont commencé à me donner un peu envie d'ailleurs. Même si l'envie d'ailleurs, je crois que je l'avais un petit peu avant parce que mon rêve quand j'étais ado, en fait, c'était d'être journaliste sportif parce que j'adorais le sport et j'aimais les langues et j'avais des envies d'ailleurs. Et je pensais que reporter sportif, ce serait super. Bon, après, on m'a expliqué qu'à part un ou deux reporters sportifs, ça veut souvent dire écrire des petits articles dans le Républicain Lorrain. Et donc, j'ai changé d'avis. Donc, voilà.
D'accord. Alors, on est. J'essaie de me mettre un petit peu en situation. Qu'est-ce que j'entends là dans le fond ? Les petits oiseaux ?
Ah, des oiseaux, ouais. Mais ça, c'est les oiseaux qui font des bruits sympas parce qu'on a des oiseaux qui font des bruits un peu de singe. J'en verrais, c'est drôle. En fait, ce qui est très drôle à Sydney, c'est que quand tu penses que tu te fais, tu sais, les petits oiseaux qui font des bruits et des petits coui-coui mignons, etc., l'Australie, en fait, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'on a des oiseaux qui s'appellent des kookaburras et on habitait dans un appart qui n'est pas ici, celui d'avant, où en gros, ils commençaient à chanter à 4h30 du matin et c'est un bruit horrible qui ressemble vraiment à un singe et ça nous réveillait tout le temps. Voilà.
D'accord, une bonne raison pour déménager, quoi.
Okay. Non, pas vraiment, non.
Ok, donc, cette envie de voyager, je reviens un petit peu en arrière, envie de voyager, tu as eu donc l'occasion de découvrir déjà pas mal de pays, de nouveaux continents, je pense à Cuba par exemple. Fast forward un petit peu en avant, donc tu fais tes études post-bac et vient la première opportunité d'aller voir l'étranger, mais cette fois-ci toute seule, sans ta famille.
Ouais. Donc, d'abord, j'ai fait mon DUT, à Nancy. Donc, c'est une heure de route. Hein. Je rentrais tous les week-ends.
On expat total.
Très loin de chez... Exactement. Dépaysement. Et ensuite, l'UTC. Et à l'UTC, comme tu le sais, on doit faire deux stages. Et donc, premier stage, je recherchais un stage. Et là, il faut savoir que mes parents ont des amis d'enfance, donc surtout un ami qu'ils connaissent depuis mes parents ont 19 ans, qui a déménagé, qui était expat à Hong Kong. Et donc, il m'a vu grandir. Il me connaît depuis toujours. Et un appel, d'ailleurs, duquel je ne faisais pas partie avec mon père, où... il dit « Ah, Amandine, elle cherche un stage. Si tu veux, j'ai quelque chose en Chine. Bon, par contre, ce n'est pas Hong Kong. C'est sur notre usine dans le Guangdong, donc dans la province de Canton. Écoute, si ça lui dit, moi, je lui fais un contrat. »
C'est dans quel coin de la Chine, ça a l'air, du coup ?
C'est dans le sud-est. Donc, c'est à 2 heures à l'est de Canton. Mm-hmm. Et c'est à peu près à 2 heures au nord de Shenzhen. À peu près 3 heures au nord de Hong Kong.
D'accord.
Donc c'est vraiment la province en fait où il y a quasiment toutes les usines. Donc si tu imagines les grosses, grosses usines chinoises, la plupart sont dans cette province-là.
D'accord, ok.
Donc notre ami, lui, par contre, était au bureau à Hong Kong, mais 2 ou 3 jours par semaine venait dans les usines en Chine. Et donc voilà, donc il a proposé ça. Et en fait, moi, je suis assez connue pour passer d'une idée à objectif très très vite et de faire des choses sur des coups de tête. Et donc j'ai dit oui, alors que je savais pas du tout même où était la ville où j'allais.
D'y aller, mon copain.
Donc voilà, j'y étais. Et en fait, ça a été un dépaysement, mais en fait, c'était juste énorme. C'est-à-dire que je suis partie dans une ville qui s'appelle Huaizhou. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment on prononce correctement, mais bon. c'est une ville où je pense que, à part les chefs d'entreprise, j'étais la seule blanche dans toute la ville. Et je vivais, en fait, dans la société. C'est-à-dire que dans cette province-là, les sociétés ont en gros une grande, un genre de muraille, en fait, autour de la société. Et donc, tu as les bureaux, ensuite, tu as l'endroit où tout se fait, donc l'usine. Et à côté de ça, eh ben, y a là où les gens dorment. C'est-à-dire que tu vis et tu travailles au même endroit.
Ouais, donc le mot cité dortoir prend tout son sens, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'était vraiment ça. Ils te nourrissent, ils te fournissent un logement et ils te payent quasiment rien. Voilà.
Waouh, ok. Et alors, t'as resté combien de temps là-bas?
7 mois. 7 mois.
Et en 7 mois, on a quand même le temps, je pense, de se dépayser et de vivre un grand choc culturel. Ça a été quoi, donc, tu t'attendais à quoi avant de partir? Alors, je ne sais pas si, du coup, comme tu es parti sur un coup de tête, tu as peut-être accepté sur un coup de tête, mais après, tu n'es pas parti du jour au lendemain. Est-ce que tu avais des attentes particulières? Comment est-ce que tu as vécu l'arrivée?
Écoute, les attentes, je pense que une des grosses raisons pour lesquelles je suis partie, c'est que à l'époque, en fait, aller en Chine, c'était pas si courant. Je pense que maintenant, ça choquerait un peu moins les gens. Mais on était en 2008 et en fait, en 2008, partir faire un stage en Chine, c'était pas si courant que ça. Je me rappelle d'ailleurs la tête des gens à l'UTC quand je leur ai dit que je partais en Chine et que c'était pas Hong Kong ou Shanghai. Et oui, c'est ça. Pourquoi tu fais ça? En fait, je crois que je me suis rendu compte petit à petit quand on parlait du contrat que ça allait vraiment être une expérience différente. C'est-à-dire ouais. que, par exemple, moi, j'ai dû aller négocier à l'UTC pour qu'ils baissent le salaire minimum. On m'a expliqué que plus de $100 par mois, c'était pas possible. Il y a normalement à l'UTC un salaire minimum parce qu'ils veulent pas qu'on exploite les étudiants. Ouais. Par contre, ce qu'on m'a dit, c'est écoutez, c'est $100 par mois, mais on vous fournit un logement et on vous donne à manger matin, midi et soir, 7 jours sur 7.
Oui, puis $100 en Chine aussi, c'est pas du tout le même niveau de vie.
Non, c'est aussi pas du tout le même niveau de vie. Mais une fois que tu as un logement et qu'on t'a nourri, après, ouais. effectivement. C'est de l'argent de poche.
C'est des conditions, ouais, d'accord, un peu différentes.
Voilà. Bon, après, par contre, très, très, très gros choc culturel.
J'imagine.
De un, mon anglais était vraiment pas top. Le gros problème, c'est que leur anglais était pas top non plus. donc, on se comprenait à peu près. Moi, j'étais là-bas, j'ai eu la chance d'avoir une chef de projet allemande qui était là de temps en temps et qui est exceptionnelle, qui, elle, apprenait le mandarin. D'ailleurs, je m'en souviendrai toujours de cette femme, Birgit. Elle parlait 7 langues couramment.
Wow.
Elle parlait, je ne sais plus, mais le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le thaï, enfin bref, de la folie. Et donc, voilà. Maintenant, dans les choses qui choquent, de un, je pense qu'en Chine, il y a pas mal de... Comment expliquer? Il y a pas mal de pudeur. Il y a énormément de pudeur, ce qu'il n'y a pas du tout en France, je trouve. Mais
de la pudeur par rapport aussi... à quoi?
De la pudeur physique, je dirais, en général. Par exemple, moi, j'étais dans une salle de sport quelquefois en ville. Bon, imagine salle de sport des années 60, hein. Et par contre, les gens se cachaient énormément, alors que bon, moi, dans un vestiaire féminin, enfin, voilà, je me change. Ouais. Eux, pas du tout. Et je pense qu'il y a aussi le fait que c'était une petite ville, enfin, une petite ville. Il y a plus d'1 million d'habitants, mais en Chine, c'est une petite ville. Ouais. Et après, il y a, je pense, une autre chose qui m'a pas mal choquée, c'est il y a des choses dont nous, on parlerait pas, qui sont absolument pas problématiques en Chine. C'est-à-dire qu'on m'a demandé plusieurs fois combien je pesais.
Ah ouais, ouais.
C'est une question normale au boulot.
Ouais.
voilà. Ça choque un peu.
Ouais, oui.
ouais. On m'a...
Enfin, n'importe quelle après, question sur tes attributs physiques, en fait.
Oui, oui, sur hyper, les attributs physiques.
Pas donc, politiquement correct dans les pays occidentaux, quoi.
Exactement. Ce qui est très drôle, parce qu'ils sont très pudiques et en même temps, ils posent des questions comme ça.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'était assez, assez intéressant. L'autre chose qui m'a choquée, mais j'étais très... Enfin, j'étais ravie, en fait, c'est que les Chinois donnent énormément. C'est-à-dire que l'image qu'on a de la Chine, c'est pas du tout ce que j'en ai vu. Donc, quand moi, j'étais en Chine, il y avait eu un tremblement de terre quelques mois avant dans le nord-ouest de la Chine et il y avait eu énormément de morts. Et moi, j'avais des collègues qui venaient pas du tout de cette région qui donnaient... Alors, maintenant, je te parle de gens qui gagnaient... Allez, on parle de 50, 60, 70 dollars par mois. Qui n'avaient pas grand-chose,
ouais.
qui vivaient sur place alors que leur famille était loin et donc qui envoyaient quasiment tout leur salaire à leur famille. Et j'avais des collègues qui ont donné 3 à 4 mois de salaire
wow.
à des gens qu'ils ne connaissaient pas.
Ouais.
Et donc, ça m'a fait un peu...
Une générosité hallucinante, quoi.
Ouais, une générosité, mais complètement hallucinante, que je pense dont on ne parle pas, en fait. Quand on parle, les Chinois, on voit l'individualisme, etc., mais en fait, en tout cas, dans cette petite ville, c'était. Enfin, je pense que ça m'a fait remettre en question énormément de choses, tu sais. Et donc voilà. Je pense dans l'autre choc, chose à savoir, c'est qu'en Chine, dans le, il y a une rivière à peu près au milieu du pays, et au sud de ça, en fait, il y a pas de chauffage dans les lieux publics ou dans les bureaux. Et
ah ouais.
Donc moi, là où j'étais, bon, il fait pas super froid, mais là où j'étais, il faisait peut-être 6-7 degrés l'hiver. Et en fait, t'as pas de chauffage dans ta chambre. Donc,
comment ça se fait? Voilà.
Écoute, c'est comme ça. Je sais pas. Les gens posent pas la question, je sais pas.
Waouh, ok. Ah ouais, donc, et toi, voilà. T'étais à quel. Donc, tu as passé l'hiver, toi, là-bas?
Ouais, j'ai passé l'hiver. Ouais. J'ai dormi en jean avec des collants, c'était très drôle.
Oh, wow.
Et puis le plus choquant, c'est la douche, je pense. Ouais, j'avais le droit à 3 minutes d'eau chaude par jour. Et après, ça
allait aller à l'essentiel, quoi.
Ouais. Et puis quand tu sors, il fait froid. C'est génial. Donc voilà, gros choc.
Ok, d'accord. Mais c'est intéressant parce que du coup, c'est un choc. Dans les deux sens, quoi, sur la civilisation, sur comment est-ce qu'on vit là-bas, mais sur les personnes aussi. Et c'est sympa aussi quand les idées, enfin, on essaye de pas avoir d'idées préconçues, mais on grandit comme dans une culture où on pense connaître les gens alors qu'on n'y est jamais allé. Non, c'est intéressant.
Oui, effectivement. Et puis, je pense qu'il y a aussi, tu sais, le fait, tout le monde, en fait, étant donné que j'étais venue toute seule, je pense que j'ai mangé dans quasiment toutes les familles de tous les gens qui bossaient dans mon département, en fait.
Ah, génial.
Parce que j'étais toute seule, ils m'invitaient, quoi.
Ouais.
Et enfin, bref, ce que je pense que tu verrais pas en France ou dans beaucoup de pays occidentaux.
Ouais, en tout cas, pas chez tout le monde, quoi. Enfin, t'aurais
pas chez tout le monde,
quelques invitations.
Certains, mais vraiment pas la norme.
Ouais. Ça. Ah, c'est chouette, c'est
donc
super
voilà.
Chouette.
Ouais.
Donc du coup, t'es resté 7 mois dans cette ville que je ne m'aventurerai pas à essayer de prononcer. et donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, retour en France ou t'avais fini
retour
tes études, t'en étais où?
Non, j'avais encore 2 semestres à faire avant de faire mon stage de fin d'études. Donc je suis revenue en Picardie.
Mm-hmm.
Et puis,
The place to be en France. Ouais.
The place to be, exactement. Compiègne, là où tout se passe. Et donc ensuite, il fallait trouver un stage de fin d'études. Et donc là, je me suis dit, bah écoute, je suis en Europe, j'ai fait l'Asie, je vais essayer l'Amérique du Nord. Et malheureusement, je connaissais personne. Donc, bah moi, ça m'arrête pas beaucoup ces choses-là. Donc j'ai regardé, tu sais, on avait ce genre d'annuaire de tous les gens qui
les
étaient
anciens.
Des anciens diplômés, ouais, c'est ça. Et je pense que j'ai envoyé à peu près 200 emails à des gens que je connaissais pas en disant plus ou moins voilà, je voudrais un stage en Amérique du Nord. Malheureusement, là on parle de 2009 et donc pour l'Amérique du Nord, c'était vraiment pas le bon moment, l'économie était pas top.
Se remettait à peine quoi, ouais.
Se remettait mais tout juste. Et donc là, je reçois un email d'une femme qui était diplômée début des années 80, quelque chose comme ça, qui me dit « Je suis à Edmonton au Canada, mais j'ai un contact qui est Vice President of IT dans une société à Calgary et je pense qu'ils auraient une place pour toi. » Alors, je vais être tout à fait honnête, je ne savais ni où était Edmonton, ni où était Calgary.
Ce que j'allais te dire, alors explique un peu pour nos auditeurs qui ne connaissent pas toute la géographie canadienne.
Alors,
parce que généralement, on situe Montréal, Toronto et après, nous, Français…
Et peut-être Vancouver.
Ouais, éventuellement, ouais.
Et donc le Calgary et Edmonton, c'est dans l'Alberta. L'Alberta, c'est 12 heures à l'est de Vancouver. Donc, c'est à l'intérieur des Rocheuses, en fait.
Ouais, donc c'est clairement pas tout près.
Donc, c'est pas tout près. Et donc, voilà, pour ceux qui veulent savoir, Calgary, c'est là où a été tourné le film Rasta Rocket.
Pour se situer. Ah, d'accord.
Voilà, donc il fait froid.
Oui.
Donc voilà. Et donc, encore un coup de tête, j'ai dit oui. J'ai eu deux conversations.
Le boulot était intéressant.
Avec des gens. Ouais. Le boulot avait l'air intéressant. C'était à peu près ce que je voulais faire. Et donc voilà, deux conversations avec des gens dans mon anglais qui était encore pas top, mieux, mais pas extra. Et donc je me retrouve à Calgary au Canada où je connais pas un chat.
Bon, l'avantage c'est que là-bas par contre, tu avais le droit de mettre le chauffage.
Exactement, oui, parce que là par contre, les hivers c'est pas 5 degrés, c'est moins 40. Donc c'est pas tout à fait pareil.
Et l'hiver dure combien de temps là-bas?
Donc, il y a une blague à Calgary, ils disent qu'ils ont vu de la neige tous les mois de l'année, et c'est vrai.
Sérieux?
Oui.
Parce que vous avez l'altitude? Ouais.
Non, en fait, il n'y a pas énormément d'altitude parce que tu es en vallée à côté des Rocheuses. Mm-hmm. Par contre, non, l'hiver, vraiment, je dirais 6 mois. Ah, ouais. Après, il y a des possibilités en été. C'est-à-dire qu'en été, tu peux avoir 30 degrés, mais en été, tu peux aussi avoir 10 degrés. Moi, il m'est arrivé il y a quelques années, d'ailleurs, l'année juste avant qu'on parte en Australie, ce qui a confirmé le fait qu'on voulait partir en Australie, je me rappellerai toujours, c'était début septembre et on est passé en une journée de 30 degrés short débardeur dans le jardin à neige le matin d'après. Voilà, Calgary pour toi.
Sans transition, bonjour.
Exactement.
Ok, d'accord.
C'est voilà l'hiver.
Alors là, du coup, donc, tu débarques à Calgary, tu arrives à quelle saison du coup?
Alors, moi, je suis arrivée fin janvier.
Ah oui, donc le pire du pire, quoi. Hein. C'est le plus
Exactement.
Froid.
C'est
quand
c'est
l'hiver
vraiment
est vraiment bien installé.
Le 26 janvier 2010.
D'accord. Tu arrives toute seule?
J'arrive toute seule. Je m'étais trouvé une coloc parce que je m'étais dit, bon, pourquoi pas. Bon, après ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'est très, très mal passé. Donc, après quelques mois... En gros, elle était proprio de l'appart et elle m'a foutu dehors plus ou moins sous prétexte que son copain m'aimait bien. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails de cette histoire un peu folle. Ouais. Mais donc, je débarque, je connais personne, mais dans la société où je travaillais, en fait, j'ai rencontré pas mal de gens, surtout une grosse communauté mexicaine, en fait.
D'accord, ok.
Donc, je rencontre une grosse communauté mexicaine, d'ailleurs quelques Colombiens. Avec lesquels je me suis plutôt bien entendue. Et donc ça a pas mal aidé. Et quelques mois après, en avril, j'ai rencontré Bogdan, qui est maintenant mon mari et le papa de mes enfants.
D'accord.
Donc voilà, on bossait dans la même société.
Ouais.
Et donc voilà. Ouais.
Ok, génial. Et alors, d'un point de vue immigration, comment ça se passe au Canada quand tu débarques? Donc, tu es venu, toi, à la base pour 6 mois, pour ton stage de fin d'études?
Oui. Je suis venue pour 6 mois. Il y a des accords entre la France et le Canada. Donc, obtenir un permis de travail pour 1 an ou 2, ce n'est pas trop compliqué.
D'accord.
Plus que ça, ça devient un peu compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si tu as une offre d'embauche et que tu es français, il y a plusieurs visas qui existent et donc, tu arrives à rester. Maintenant, le problème a été que donc j'ai fait ça, mais ensuite ils m'ont fait une offre d'embauche. D'ailleurs, j'ai eu mon offre d'embauche et j'ai rencontré mon mari la même semaine.
Belle semaine.
Voilà, donc il fallait rester.
D'accord. Donc au bout de 6 mois à peu près, du coup, j'imagine.
Donc au bout de un peu avant, en fait. Ils m'ont fait une offre pas mal avant, c'était assez surprenant. Mais je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait des délais d'administration pour les visas, etc. Donc, je suis rentrée en France parce que j'avais mon travail reprenait, je crois que c'était en septembre, alors que le stage finissait en juin ou juillet, quelque chose comme ça.
Ah, super, t'as pu rentrer pour
l'été. Et il fallait... Exactement. Et puis mon mari m'a rejoint, je lui ai fait visiter la France. Et donc voilà, j'ai obtenu un autre visa de travail pour, je crois que c'était encore un an.
Ok.
Et ensuite, au moment de renouveler ce visa-là, catastrophe. C'est-à-dire que au Canada, ils font une chose qui est que si une société emploie un étranger, il faut fournir l'offre d'embauche. Et le gouvernement vérifie qu'il paye en gros la même chose que ce qu'il donnerait à un Canadien. Donc pour chaque job, ils ont en gros une fourchette de salaire. Uh-huh. Et s'ils considèrent que la société va sous-payer l'étranger, eh ben ils refusent le visa.
Et là, c'était le cas.
Et là, ils ont considéré que j'étais sous-payée. Donc là, ils me refusent.
Et toi, tu avais accepté, le salaire te convenait bien, les conditions te semblaient correctes.
Tout me semblait correct. Maintenant, faut savoir que l'Alberta, à l'époque, le prix du pétrole était encore très très haut. Donc on parle d'une province qui était vraiment. Celle qui faisait tourner l'économie au Canada. Donc, les salaires en Alberta par rapport aux salaires partout ailleurs étaient très, très hauts. Donc, pour moi, ça me paraissait très correct. Mais par rapport à l'Alberta, parce que c'est quelque chose qui vérifie province par province, pas au niveau du pays. Et donc, ils ont considéré que c'était trop bas. Alors, le problème à l'époque, donc on était fiancés. Et là, en gros, on me dit qu'il va falloir que je parte du pays. On était en plein préparatif de mariage et je crois que je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'ai appelé mon père en lui expliquant qu'il fallait peut-être que j'aille me marier pour les papiers.
T'as dû te faire bien accueillir.
Ah ouais, ça a été exceptionnel. Je crois que c'est probablement la plus grosse dispute de toute ma vie avec mon père. Parce que pour lui, il voulait plus faire la fête de mariage en fait si j'étais déjà mariée d'un point de vue civil. C'est-à-dire en gros, il m'a dit si tu le fais, j'annule tout. Et le problème, c'est que nos parents payaient pour le mariage, donc voilà. ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé quelles solutions il y avait. Ma société a essayé de trouver quelque chose, mais pour être honnête, les avocats de la société étaient un peu inutiles.
Ouais.
Et je suis tombée sur un autre visa qui existe spécifiquement pour les Français et un peu pour les gens qui commencent dans la vie. Donc, je crois qu'il fallait avoir moins de 4 ans d'expérience ou quelque chose comme ça. Et ils ont un quota par an de ce visa dont je n'avais jamais entendu parler. Et quand j'ai cliqué sur la page, il restait 6 visas pour toute l'année et il restait 7 mois. Donc, j'ai dû retourner dans mon entreprise et leur expliquer qu'il fallait qu'ils me fassent les papiers dans les heures à venir. Crois-le ou non, on a réussi à le faire dans les temps et j'ai eu un des 6 visas.
Waouh, génial.
Ouais. Donc, génial parce que de 1, je pouvais rester. De 2...
Tu pouvais toujours te marier.
je pouvais toujours me marier de la manière dont je voulais. Se marier pour obtenir les papiers, j'étais pas vraiment compte. De toute façon, on était fiancés, mais ça m'embêtait un peu quand même. Uh-huh. Donc voilà, on n'a pas dû faire ça. On a fait notre mariage correctement l'année d'après, et donc j'ai eu ce visa. Et en même temps, on a lancé la demande de résidence permanente, donc l'équivalent green card pour les US.
Ouais.
Et ça, étant donné qu'on vivait ensemble, qu'on était mariés, etc. Ensuite, j'ai réussi à obtenir ma résidence permanente.
Et donc, Bogdan, lui, il était résident permanent ou il était canadien ?
Alors, non. Alors, Bogdan est né en Roumanie, mais il est venu au Canada avec ses parents quand il avait 17 ans parce que son papa est ingénieur forage, donc dans le pétrole. Bogdan a été naturalisé canadien en 2005, je crois.
Ok, donc il était canadien.
Donc lui était canadien, ouais.
Donc c'est ce qui a permis aussi justement,
De faire avancer les choses et que je puisse obtenir ma résidence permanente. Et comme j'avais un visa en attendant, je pouvais travailler.
D'accord, d'accord. Et on pense que les États-Unis, c'est compliqué, mais ça n'a pas l'air quand même complètement évident non plus côté Canada. Et donc, du coup, alors, tu es restée combien de temps en Alberta?
Donc, en Alberta, 4 ans. À quelques semaines près, en fait. Je pensais pas rester, en fait. Pour moi, l'Alberta, c'était 6 mois. Je voulais retourner en Chine au début et je m'étais dit que j'essayais d'apprendre le chinois. Mais comme j'ai rencontré Bogdan et que j'avais un travail qui était plutôt bien payé, on commençait à rencontrer pas mal d'amis, etc. Donc, je suis restée. Mais je pense que depuis...
Ah, l'amour nous fait faire de ces trucs.
Ouais. Non, bah, toi, Buffalo, moi, Calgary, bref. C'est ça. c'est pas les Caraïbes. Et donc, je pense que depuis le début, Bogdan et moi, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on resterait pas pour toujours. Que l'Alberta, c'était bien en début de carrière, il y avait du boulot, l'économie était bien, on avait des amis, tout ça, tout ça. Mais on voulait pas y rester. Plusieurs raisons. De un, le climat. donc ça, oui, c'est un truc. Ma maman se foutait un peu de moi parce que grandissant en Moselle, je lui avais toujours dit que je partirais parce que le temps était pourri. Et ensuite, j'ai été en Alberta. Elle trouvait ça très drôle.
Ouais, c'est autant aller vivre au pôle Nord, quoi.
Exactement. Mais il y avait ça. Et écoute, on aime beaucoup les Canadiens. J'adore les Canadiens. Mais c'est un peu trop poli et un peu trop politiquement correct pour moi. C'est-à-dire que ils prennent la politesse, mais c'est un autre niveau, quoi. C'est-à-dire que je dis toujours aux gens, si tu marches dans la rue et qu'en fait tu rentres dans quelqu'un, au Canada, c'est la personne là qui va s'excuser, en fait, alors que c'est entièrement de ta faute. Ils sont géniaux. J'ai vraiment rien de mal à dire du Canada, mais j'arrivais pas à être moi-même, en fait.
D'accord.
J'avais un peu du mal. J'aime bien les blagues un peu pas correctes. J'aime bien être très directe. Et donc voilà, tout ce qui est Oreo communication, donc enfin, ou shit sandwich, où il y a plein de noms pour dire que d'abord tu dis quelque chose de bien, après pas bien, après bien. J'ai du mal, en fait. Je peux le faire, hein, il y a pas de souci, je peux le faire, mais j'avais l'impression de pas être moi-même, et je me suis dit, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre pendant toute ma vie. Donc Bogdan et moi, en fait, plus ou moins un autre coup de tête, même si on s'était mis d'accord sur le fait qu'on partirait, et je crois que c'était notre premier ou notre deuxième date, hein, donc c'est depuis le début, il n'y a pas eu de surprise. C'est ok, je veux bien être avec toi, mais pas si on reste ici. Et donc un soir, on mangeait et on s'est dit, bon ok, on a dit qu'on partait, on part quand et on part où? Et donc, on avait juste quelques critères. Un pays anglophone. Deux, un endroit où, d'un point de vue IT, ce serait bien, parce que Bogdan est aussi dans l'informatique. Donc, malheureusement, en Alberta, avec le pétrole, etc., dans l'informatique, bon, y a des choses à faire, mais ce n'est pas super excitant.
Ouais, c'est pas la Silicon Valley, quoi.
Et voilà. Et donc, on aurait aussi voulu quelque part où le temps est un peu mieux. Et quelque part où on pourrait arriver en tant que résident permanent. Bon, ça c'était un peu cherry on the cake, hein, un petit peu. Ouais. On s'est dit on va essayer de trouver un endroit, parce que moi j'avais fait visa, enfin permis de travail en Chine, permis de travail au Canada, etc.
Ouais. Avoir et une situation dit, un peu plus stable.
Ouais, c'est exactement. J'en ai un peu marre. Mm-hmm. Et donc, on a regardé, et en fait, il y avait plusieurs possibilités. Donc, d'un point de vue anglophone, il y avait le Royaume-Uni, mais ça, d'un point de vue climat, c'est pas top.
Oh, c'est moins froid qu'Alberta, quand même.
C'est mieux, c'est beaucoup plus mouillé aussi. Ouais. Et ensuite, on avait regardé États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande. Les États-Unis, d'un point de vue immigration, on s'est dit, écoute, on pourrait, hein, surtout parce que Bogdan était Canadien, donc en fait, il y a des facilités pour les Canadiens pour venir, pas de manière permanente, hein, pas pour avoir une green card, mais si c'est pour quelques années, en fait, les Canadiens ont pas mal de facilités. Mm-hmm. Et donc, on s'était dit, ok, ou l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et au final, il y a un visa qui existe en Australie qui s'appelle Visa 189, donc 189. Et donc, tous les ans, l'Australie fait une recherche et des statistiques sur le marché du travail, et ils produisent une liste de quels jobs ils vont manquer l'année prochaine. C'est-à-dire qu'ils ont une liste qui... C'est une liste qui dit à peu près infirmière, 1527, électricien, 22, etc. Et donc, Pour tous les métiers où ils en ont assez, et ben, ça ne fait pas partie de la liste.
Ouais.
Et là où ils vont manquer, c'est dans la liste.
Et du coup, c'est réparti de manière géographique dans la, dans, en Australie, enfin, genre, c'est qu'on va manquer de tel job dans tel coin, ou c'est,
alors, tu peux ça aller dépend. N'importe où. Il y en a deux. Donc, il y a le visa 189 et il y a le visa 190. Le visa 190, c'est état par état. Et donc, la liste d'accord. est différente. Le visa 189, c'est pour tout le pays. Donc, normalement, visa 189 est un peu plus compliqué à obtenir parce que, ben, il y a plus de gens qui veulent aller, par exemple, à Sydney qu'à Darwin. mais donc, voilà. Par contre, une fois que le métier est dans la liste, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'une fois que le métier est dans la liste, de un, il y a des quotas. Donc, ça veut dire qu'il faut, s'ils disent qu'il leur faut 3000 software developers et qu'il y a 5000 personnes qui font la demande. Après, il y a tout un système de score. Donc, il y a deux choses à comprendre. De un, il faut réussir à prouver que ton métier, c'est le métier qui est dans la liste.
Ouais.
Donc, ce qui demande, en fait, je prends un exemple software developer parce que c'est ce que Bogdan avait fait. En gros, tu dois aller, tu dois leur envoyer tes diplômes avec la liste de tous les cours que tu as pris.
Ah ouais.
Et tu dois aller demander à toutes les sociétés pour lesquelles tu as travaillé une liste détaillée des tâches exactes que tu faisais dans ton boulot.
Et tu peux pas la faire toi-même, il faut que ça vienne de l'entreprise.
Ah, non, il faut que ça vienne de l'entreprise.
Ah ouais.
Et une fois ouais. Et le problème aussi, c'est que ben, la société dans laquelle tu es à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué de leur demander parce qu'après, ils sauront que tu veux partir. Donc, ouais. si tu y es depuis un moment, et d'ailleurs, c'était le cas pour Bogdan, eh ben, c'est un peu compliqué. On a réussi, mais ça peut être compliqué parce que disons que tu es dans la même société depuis 5 ans, ouais. Ce serait là où tu aurais toutes tes tâches et tes activités, etc. Mm-hmm. Et ça peut ne pas marcher. Maintenant, une fois que tu as réussi à faire ça, bon, il faut, si ce n'est pas en anglais, il faut que ce soit traduit officiellement en anglais.
Voilà.
Et après, il y a, alors, une fois que tu as fait ça, il y a un système de points. Mmh. C'est-à-dire qu'en fonction de ton âge, de ton niveau d'anglais, du niveau de tes diplômes, etc., etc., tu as un système de points. Donc, il faut au moins avoir 60 points pour obtenir la résidence permanente. Mais donc, il faut que tu arrives à prouver que ton job soit le bon, que tu aies assez de points. Et ensuite, il faut aussi que tu rentres dans les quotas. Donc, par exemple, si tu as.
C'est clairement pas un done deal, quoi.
Ah non. Parce que même s'ils en ont, je dis une bêtise, ils en ont 1000. Et si cette année-là, ils ont 1000 personnes qui ont 80 points, si tu as réussi à prouver que c'est le bon job, mais que tu n'en as que 65, tu n'auras pas ton visa.
Ah ouais, vache.
Okay. Donc voilà. Maintenant, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a réussi à le faire par Bogdan. Donc Bogdan était. Principal applicant, je ne sais même pas comment tu dirais ça. Donc voilà, donc moi j'étais seulement l'épouse sur le visa. Je dis toujours aux gens, moi je trouve ça très drôle. Ouais, mais en fait je trouve ça très drôle d'avoir utilisé un Roumain deux fois pour les papiers. c'est un peu contre le cliché et je trouve ça très très drôle.
C'est clair.
Et donc voilà, donc on est arrivé. En février 2014, en tant que résident permanent.
C'est génial, c'est royal donc de pouvoir arriver, d'être, tu sais que tu es là ouais. pour de bon et qu'on va plus t'emmerder. Quoi.
Voilà, exactement. Et puis encore mieux, c'est que moi, je travaillais donc pour une société qui s'appelle Deloitte, donc une des Big Four dans ce qui est conseil en management.
Ouais,
exactement. Et je travaillais pour eux au Canada. Et en gros, j'ai contacté directement l'Australie. Je ne les ai pas contactés eux. J'ai contacté le bureau en Australie en leur disant, voilà, je bosse déjà chez Deloitte. Je voudrais un transfert, mais j'ai déjà fait tous les papiers. Vous n'avez rien besoin de faire, en gros. Je veux juste un boulot. Et donc, ils m'ont, après quelques entretiens par Skype, ils m'ont embauché. Donc, non seulement on avait la résidence permanente, mais ils nous ont payé tout le déménagement.
C'est génial. Parce que c'est vrai que c'est une des grandes différences par rapport à pas mal d'autres pays, c'est que du coup, vous êtes arrivé, Bogdan, lui, il n'avait pas encore de boulot.
Non.
Enfin,
il
tu
est
peux faire tous tes papiers, en fait, sans avoir un boulot qui t'attend de l'autre côté.
Ouais.
Donc, c'est vrai que c'est
aussi arrivé. Si tu es dans la liste de jobs, tu peux faire ça. Ouais, ça peut arriver.
Ouais. Ah, génial. Royal.
Donc, voilà. Alors,
l'arrivée en Australie, comment ça se passe? Bon, d'abord, la famille de Bogdan, elle était au Canada, c'est ça?
Alors, la famille de Bogdan, c'est aussi toujours très compliqué. La famille de Bogdan était retournée en Roumanie pour quelques années. Ils allaient revenir au Canada. Donc, le frère de Bogdan était à Ottawa. Donc, au Canada, oui, mais à 4 heures d'avion. Mm-hmm. et ses parents étaient retournés en Roumanie parce que son père avait eu une opportunité de travailler 2 ans à Bucarest pour une société américaine. Mm-hmm. Donc, en fait, quand on était à la fin au Canada, on vivait dans la maison de mes beaux-parents.
D'accord.
Mais mes beaux-parents étaient en Roumanie.
Donc, du coup, les au revoir n'ont pas été trop, trop difficiles avec le Canada?
Non, écoute, je pense que les au revoir avec le Canada, ça a été... On avait des amis hein, qui, mm-hmm. qui nous manquent. Mais en fait, on savait pourquoi on partait et on est très contents.
Ouais. Ouais. D'accord, ok. Alors du coup, donc, l'arrivée en Australie, donc cette fois-ci cap au sud, comment est-ce que se passe l'arrivée? Est-ce que tu as embrayé directement sur ton nouveau job ou est-ce que vous avez pu prendre une petite pause pour vous installer pour... Est-ce que vous saviez déjà où vous alliez vivre? Comment ça s'est passé?
Donc j'avais 2 semaines entre le moment où on arrivait et le moment où je commençais. On s'est pris un bon choc thermique parce qu'on a pris l'avion en février, il faisait moins 30, on a atterri, il faisait 30.
Donc 60 degrés dans la tronche, bien.
En fait, c'était énorme, j'avais jamais réalisé, mais 60 degrés, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et même s'il fait beau, en fait, le corps, il supporte pas très bien.
Ouais, j'imagine.
Et surtout quand on est super blanc après l'hiver canadien. bref, donc nous on est arrivé, ma société payait pour nous avait payé un appartement pendant 2 semaines pour nous donner le temps de trouver un peu quelque chose. Mm-hmm. Et donc la première semaine, en gros, on a ouvert des comptes en banque, été à l'équivalent sécurité sociale, mm-hmm. fait tous les papiers qu'il fallait faire et on a trouvé un appartement. Maintenant, trouver un appartement à Sydney, c'est très, très différent de tout ce que j'ai connu avant ça.
Ah ouais,
c'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes qu'en fait, si tu vas en ligne pour visiter un appartement, en gros, il y a des sites et qui sont d'ailleurs très, très bien faits. Je n'ai pas vu ça dans d'autres pays. Ils sont exceptionnels. Mais tu vas dessus et ça, donc tu auras des photos et ça te dit « viewing mercredi de 1h à 1h15 ». Et donc voilà, tu ne peux pas appeler l'agence et leur demander de te montrer l'appart à un autre moment. Non, mmh. c'est mercredi de 1h à 1h15 et c'est tout. Donc, t'arrives et il y a 50 autres personnes qui veulent l'appartement. Et bon,
comment
l'avantage,
tu fais alors,
c'est
du coup, tu joues des coudes, faut être le premier, il faut avoir un super dossier.
Fait, ouais, il faut avoir un super dossier, il faut avoir tout fait en ligne avant d'arriver. Donc, l'avantage, surtout par rapport à la France, parce que je suis en train de regarder maintenant comment ça se passe en France, c'est que tu peux avoir ta demande en gros complète en ligne et en gros tu vois l'appart, tu l'aimes bien, tu sors de l'appart et tu appuies sur les boutons et il y a déjà tous tes documents que tu as scannés ou pris des photos et donc tu peux faire la demande direct, tout est automatisé et donc ça c'est vraiment exceptionnel. Le problème c'est que après il faut prier peu importe quel dieu.
Il y a une telle compétition, quoi.
Il y a énormément de compétition. Il y a aussi le fait, un truc que j'avais jamais vu, et je dois avouer que mon âme de socialiste française a pris une claque. En fait, en général, pour obtenir l'appartement, tu proposes plus que le loyer qu'il demande.
Ah, c'est pareil pour acheter ici.
Ouais. Pour acheter ici aussi, pour acheter, j'avais vu, mais même pour les loyers ici. En fait, donc tu loues, et on va te dire. Alors, déjà, les prix sont hallucinants, c'est-à-dire que ici. Pour un appartement avec 2 chambres, si tu veux être à 20-30 minutes du centre-ville, trouver en dessous de 650-700 $ par semaine, c'est difficile.
Ah, c'est en semaine, les loyers ici
enfin, ouais, c'est en semaine. Oui, d'accord. C'est aussi un choc d'ailleurs. C'est en semaine.
Oui, j'imagine, c'est nouveau.
Par contre, il te l'affiche en semaine, mais en fait, tu payes au mois. J'ai jamais compris, mais bref. D'accord. Peut-être parce que les prix sont probablement trop hauts. Donc
psychologiquement, c'est plus facile. Donc, ça veut dire que ça correspond à quoi? 2500 annuels, mensuels
par mois. Ouais, à peu près.
Ouais,
et donc, les gens vont dire, je dis une bêtise, si c'est 650, les gens vont proposer 670 automatiquement pour essayer d'avoir l'appartement. Ouais. Et donc, voilà.
Bon, après, alors, du coup, ça a été difficile de trouver l'appart que vous vouliez ou...
En fait, pour le premier, on a eu énormément de chance. C'est-à-dire qu'on a été voir un appartement pour lequel, en fait, il n'y avait pas de photos en ligne. Et étant donné qu'il n'y a pas de photos, les gens n'y vont pas. On y a quand même été. Et il se trouve qu'il n'y avait pas de photos parce qu'ils venaient d'être rénovés 2 jours avant. Ils avaient fini 2 jours avant. Donc, l'appartement était exceptionnel et il n'y avait que nous et un autre mec pour le visiter, en fait.
Génial.
Parce que il y a pas de photo, en général tu te déplaces pas. Mm-hmm. Et il se trouve qu'on s'est déplacé, écoute, je sais même pas pourquoi on a décidé d'y aller alors qu'il y avait pas de photo. Et donc, on a trouvé. Et ensuite, une fois que tu as loué une fois, ensuite, Bogdan a trouvé un boulot. Ensuite, on était deux jeunes avec une bonne carrière bien payée. Ouais. Et on avait loué déjà. Ensuite, ça a été beaucoup plus facile.
D'accord. D'accord, génial. Ouais. Génial, génial. Alors, la culture du travail en Australie, est-ce que c'est quelque chose d'un peu similaire que ce que tu as connu en Amérique du Nord? Et j'imagine que c'est très différent de la Chine. Tu peux nous raconter un peu comment tu as vu évoluer un peu les relations au travail dans tes quatre, ou en tout cas trois expatriations?
Ouais. Bon, alors, il faut savoir que je n'ai jamais travaillé en France, à part à la poste en tant que factrice quand j'avais 17 ans.
Donc, très particulier quand même.
Voilà, j'ai fait un stage au Luxembourg quelques mois quand j'en avais 19, mais sinon j'ai jamais travaillé en Europe en fait. Je travaillais en Chine, au Canada et en Australie. D'un point de vue travail, je dois avouer, écoute, moi l'Australie, je suis amoureuse de ce pays et je pense que c'est là où je me suis sentie le mieux. Je pense que les raisons, c'est donc les Australiens sont aussi très très polis, mais beaucoup plus directs que les Canadiens. Donc ils sont par contre ils sont très très joyeux en fait, ils sont très positifs. Ouais. Les Canadiens le sont aussi, mais les Australiens, je trouve, arrivent à être positifs mais arrivent à te dire les choses. Je trouvais que les Canadiens étaient positifs mais qui te disaient pas vraiment les choses.
Tournent ici, trop autour du pot ou...
Ouais, tournent trop autour du pot. Ici, ils tournent pas autant autour du pot. Et ils sont très positifs. Ce que j'adore aussi, c'est qu'on te donne tes chances, en fait. C'est-à-dire que t'as pas besoin de, si t'en es arrivé quelque part, c'est parce qu'il y avait une raison. Et on va pas te faire passer 3 ans à prouver pourquoi t'en es là où on t'en est. En gros, on va te donner la prochaine étape. Et je pense que les gens aiment, en général, si tu veux prendre des risques, eh ben, ils vont t'aider à prendre des risques. Si tu veux pas prendre de risques, ils vont t'aider à pas prendre de risques. Je pense qu'il y a vraiment ça. Il y a une, en tout cas, dans ce que je fais, je peux pas parler des autres sociétés parce que moi j'ai toujours travaillé chez Deloitte en Australie, mais il y a une diversité qui est c'est exceptionnel. Je veux dire, c'est il y a des gens de partout et moi je sais que quand je suis arrivée, une chose qui m'a fait tellement plaisir, c'est que quand j'étais au Canada dans le bureau de Calgary qui est beaucoup plus petit que celui de Sydney, il y avait une femme qui était partenaire dans la partie conseil. Donc partenaire dans ce que je fais, en gros c'est associé, c'est t'as une partie du business. Et quand je suis arrivée à Sydney, il y avait non seulement beaucoup de femmes, mais il y avait même des femmes qui étaient partenaires à temps partiel. Alors ça, ça m'a. Et alors ça, je me suis dit, bon, écoute, je crois que je peux travailler ici.
Je suis à la maison.
Ouais, voilà. Parce que c'est des femmes qui sont, enfin, et même des hommes qui sont ambitieux, qui ont, mais qui ont une famille et qui ont décidé qu'ils n'allaient pas tout sacrifier, en fait. Donc, ils veulent les deux. Ils veulent une carrière et ils veulent une famille. Ils arrivent à le faire marcher. Ouais. Je pense un autre avantage, en fait, un truc ici, c'est que, étant donné que c'est une île qui est tellement loin de tout, en fait, prendre des grandes vacances, ça choque personne. C'est-à-dire que moi, j'ai des partenaires pour qui j'ai bossé qui prennent 4-5 semaines de suite de vacances. Ils partent pendant un mois parce que ben, l'Australie, c'est tellement loin que si on veut se refaire du trajet et du décalage horaire, ben, faut partir à peu près ça. Et ça choque personne, en fait. Ça choque absolument personne. Ils travaillent dur, hein. J'ai fait énormément d'heures. Mais je pense que c'est très, très flexible en général. Très flexible, c'est un peu, ouais, je sais pas, ils sont positifs et ils arrivent vraiment à faire marcher les choses en fonction de ce que tu veux, de ce dont tu as besoin. Et je pense qu'ils regardent, je pense qu'ils considèrent les employés comme, tu vois, je trouve en France, et j'y ai pas bossé, hein, mais c'est plus des conversations, j'ai l'impression que, tu vois, une société, elle fait une faveur aux employés en leur donnant un boulot. Et donc après, les employés, ben, ils doivent plus ou moins faire ce qu'on leur dit. Ici, je pense, une des raisons, c'est probablement que l'économie va bien, même si ça commence à aller un peu moins bien, mais ça va encore plutôt bien. C'est-à-dire que c'est pas rare dans un entretien qu'en gros, ce soit la personne qui est interviewée qui, en gros, demande à la société pourquoi est-ce que je devrais venir joindre votre société.
C'est dans les deux sens, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire,
c'est vends-toi autant que moi je dois le faire.
Ouais. Exactement. Donc ça j'ai pas mal aimé.
Ouais, un rapport de force.
Je pense que ça t'aide. Il y a aussi pas beaucoup de hiérarchie. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé, je suis arrivée ici, j'étais consultante senior. Donc il y a les niveaux chez Deloitte, c'est analyste, consultant senior, manager, senior manager, directeur, partner. J'étais consultante senior. Et j'avais des conversations avec les partenaires et je leur disais que j'étais pas d'accord. Et enfin, n'y avait aucun souci. Si j'avais des arguments, des fois, ils changeaient d'avis, quoi.
D'accord.
Et ça, j'ai beaucoup aimé.
Ouais.
Et je pense que la dernière chose que j'aime énormément, c'est en fait la manière dont ils voient le congé maternité. C'est-à-dire que pour Théo,
j'étais manager. Théo, c'est ton aîné ?
Théo, c'est mon aîné, ouais, pardon. Théo, il a un peu plus de 4 ans.
Ouais.
Je me suis arrêtée pendant un an et je ne leur ai pas donné de nouvelles. C'est-à-dire que je ne suis pas restée en... Enfin, si, j'ai vu une ou deux personnes pour prendre un café.
Ouais.
Mais en fait, on ne s'attend pas à ce que...
Tu regardes tes mails de temps en temps.
Tes mails ou quoi que ce soit. Non. Je me suis arrêtée un an, aucune question posée. Et je suis revenue et on m'a vraiment aidée. Je suis revenue à temps partiel, d'ailleurs. Et ensuite, d'ailleurs, j'ai eu ma promotion après. J'ai été promue directrice à temps partiel.
Ouais, c'est génial.
Donc, non, ça, soit je dois avouer que l'Australie, pour ça, ça me... Ouais, ouais.
Et donc, c'est accepté. Enfin, c'est dans la... Je trouve pas mes mots. C'est une loi, enfin le congé maternité, ou c'est propre. Enfin, il y a certainement ta boîte qui est aussi très 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 progressive là-dessus, mais
il y a les deux. Il y a une loi qui dit que les sociétés doivent garder ta position pendant un an. Donc tu peux partir pendant un an. Le gouvernement te paye pendant 4 mois, mais c'est un salaire minimum, donc c'est un équivalent SMIC pendant 4 mois. Par contre, prendre un an de congé maternité, mais c'est super courant ici en fait. Je te parle du niveau PDG, dans tous les boulots, en fait, la plupart des femmes prennent au moins 6 mois. Moins de 6 mois, en fait, j'ai jamais entendu parler, même moins de 9. Après, il y a le fait que les crèches soient très, très chères. Mais en général, prendre autant, c'est juste accepter. Après, effectivement, ma société est assez progressive, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'hommes qui prennent des congés paternité pendant 3-4 mois. Et donc voilà. Non, je pense que il y a juste un rapport différent envers les enfants en général dans le pays.
Ou la famille, donc, j'ai l'impression.
Ouais. Ou la famille.
Ah, c'est génial. Alors donc du coup, tu es à Sydney maintenant, donc avec Bogdan. Il y a l'arrivée de Théo. Tu es donc devenue maman en Australie.
Oui.
Et tu as eu un petit deuxième il y a quelques mois.
6 mois. 6 mois. Ouais. 6 mois et demi.
Qui s'appelle
Noah.
Ok, ouais, donc tu es la maman de deux petits garçons. Et là, en ce moment, tu es dans les cartons. Raconte un peu.
Exactement. Alors là, je rentre en France. Qui l'eût cru ?
Alors, comment tu as décidé ? C'est quelque chose qui te trotte dans la tête depuis que tu es devenue maman, ou c'est une conversation que vous avez, comme lors de votre deuxième date avec Bogdan, vous aviez décidé de partir à l'étranger?
Non. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est ma maternité avec Théo, je ne l'ai pas très bien vécue. C'est-à-dire que j'ai eu mon petit garçon, il était très difficile, très très difficile. Il ne dormait pas, il a dormi la première fois toute la nuit, je crois qu'il avait 3 ans et demi. Donc ça te donne un peu une idée. Il était assez difficile comme gamin. Il acceptait pas la poussette, il acceptait pas la voiture, il hurlait à la mort. Et en fait, je me suis vraiment remise en question. C'est-à-dire que pour la première fois dans ma vie, moi qui ai vécu dans plusieurs pays, j'avais une bonne carrière, je m'étais mariée à l'homme de ma vie à 25 ans. Enfin, je croyais que c'était tout ce que je faisais. Et tout à coup, en fait, j'avais vraiment l'impression d'être nulle, en fait. J'avais vraiment l'impression de pas savoir ce que je faisais et que ce pauvre petit garçon, il était tombé sur la pire mère du monde, quoi. Et donc, on est rentré en France quand il avait 9 mois, juste pour voir mes parents. Et quand on est revenu, j'en ai pas mal pleuré, en fait. J'ai dit à Bogdan, je comprends pas ce que je fais, c'était tellement plus facile. Et Bogdan, il faut savoir que c'est un homme qui est exceptionnel, sinon je l'aurais pas épousé. Mais il m'a regardé. Maintenant, il faut savoir que Bogdan, il parle un peu français, mais il est pas bilingue, hein. Il pourrait pas travailler en français. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais si tu veux rentrer, on peut. Là, on a commencé à se poser la question. Sur le coup, j'ai dit non. Sur le coup, j'ai dit non parce que l'Australie, comme
t'étais pas prête.
J'avais entendu, mais moi, l'Australie, j'adore. Enfin, j'adore ce pays. C'est vraiment exceptionnel. J'ai pas grand chose de mal à dire du pays, à part que c'est loin et que c'est cher, mais sinon, c'est génial. Et au final, on a commencé à en discuter. Et donc, on parlait de partir. Et au début, on avait dit, OK, tu sais quoi, je vais retourner au boulot. Et puis ensuite, on déménagera en France. Et on déménagera en France, on trouvera un boulot, on fera un deuxième, comme ça on aura les parents pour le deuxième, etc., etc. Et ensuite, on s'est rendu compte que il nous restait plus très longtemps avant, à attendre avant de pouvoir faire la demande de nationalité australienne. Mmh. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on veut vraiment partir avant la nationalité ? Parce que là, on va rentrer en France, mais ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas ici.
Ouais.
Donc, on s'est dit, non, tu sais quoi, on va attendre, on va faire la demande de nationalité. Maintenant, le truc à savoir, c'est que je pense, comme beaucoup de gouvernements, il y a eu une donc on a fait notre demande, et ensuite il y a eu une proposition du gouvernement australien de changer les règles pour les critères pour obtenir la nationalité. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué, donc toutes les demandes qui avaient été soumises ont été mises en attente pendant plusieurs mois. Donc tout a été retardé. Donc au début, on s'était dit qu'on pourrait l'obtenir en peut-être, allez, je dis une bêtise, 8-9 mois. Au final, ça a pris plus d'un an et demi. Et quand on a commencé à voir les délais, on s'est dit, mais attends, si on attend, qu'on attend pour déménager, après, il va falloir trouver un boulot, il va falloir s'installer dans le boulot, mais il va falloir attendre combien de temps avant de faire un deuxième enfant? Ils vont avoir 9 ans d'écart. Donc, on s'est dit, non, mais attends, sinon, on fait un deuxième ici, parce que de toute façon, moi, j'étais dans la même société, donc on savait que le congé maternité, il n'y aurait pas de souci.
Les conditions seraient bien.
Les conditions seraient très bien. On fait notre demande de nationalité et puis on rentre après. Et donc voilà, donc c'est ce qui se passe, on a tout attendu. Je suis devenue australienne en juillet, Bogdan en septembre.
Félicitations.
Merci, merci. Comme ils disent ici, Aussie, 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 oi, oi, oi. Donc voilà, on est tous les deux devenus australiens. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que quand tu fais ta demande ensemble, même si tu es un couple, tu ne la reçois pas en même temps.
Bah ouais, ce que j'entends, à 2 mois d'intervalle, c'est dingue.
Ouais, tu peux lier tes. En fait, il y a une cérémonie pour aller chercher la nationalité, mais toutes les étapes entre-temps ne se passent pas à la même vitesse. Et on l'a bien vu, c'est-à-dire que moi, on m'a demandé d'aller faire mon test et mon entretien, etc., bien avant Bogdan. Et là, on s'est posé la question, tu peux soit lier, soit délier tes demandes. Mais en gros, si tu les lis, la seule chose que ça veut dire, c'est que les deux vont prendre, c'est-à-dire que s'il y en a une dedans qui prend plus de temps, ouais, la première personne va aussi
ça
devoir
va tirer
attendre.
L'autre vers là, d'accord.
Ouais, ouais, exactement. Donc au final, on a décidé de pas faire ça, et au final, ça, il y a eu que 2 mois d'écart. Donc voilà. Et donc on a décidé de rentrer, principalement pour la famille, en fait, pour essayer de voir. Je pense que j'ai aussi une petite voix dans ma tête qui se demande toujours comment ça serait. Je suis partie de la France il y a 10 ans.
Ouais.
Je ne sais pas du tout ce que c'est de venir en France. En fait, je crois que je suis en train de... Je pense à ce déménagement comme si je partais à l'étranger. En fait, je ne rentre pas à la maison. Je pars à l'étranger dans un autre pays. Il se trouve juste qu'il y a ma famille qui y habite. Et donc, voilà. Et dans tous les cas, si ça marche, c'est très bien. Si ça ne marche pas, on a les papiers, on peut revenir demain, quoi.
Ouais.
Donc,
ouais, donc si vous repartiez, il y a de grandes chances que ce soit encore l'Australie.
C'est possible, mais pour être honnête, je ne sais pas. Parce que Bogdan et moi, on en discutait l'autre jour. Ça reste loin. Il y a aussi que je pense qu'on a tous les deux un peu ce besoin de changement toutes les quelques années. Enfin, surtout ouais, moi. Bogdan, il a toujours une blague. Il dit qu'il a de la chance que je n'ai pas encore changé de mari. c'est juste un besoin de changement, d'envie d'ailleurs. Et je pense que c'est aussi juste un besoin d'essayer, en fait.
Ouais.
Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave.
Prendre des risques et voir autre chose.
Oui, exactement. Et je pense d'ailleurs que les Australiens, tout comme les Canadiens, et probablement les Américains d'ailleurs, sont assez... essaye, quoi.
Ouais.
Dire, t'essayes, ça marche, c'est bien. Ça marche pas, bah, t'auras appris quelque chose.
Bah, c'est génial. C'est génial. Alors, un truc, moi, que j'adore sur ton compte Instagram actuellement, c'est que tu pars dans moins d'un mois, c'est ça? Vous avez vos
billets? Ouais, ouais, ouais.
Ouais. Ouais. Dans moins d'un mois. Et donc, tous les jours, Amandine poste une raison, une chose qui va te manquer tous les jours. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'était les plages australiennes avec de belles photos et de belles explications. Dans cette veine, je vais te poser une question. C'est une question qu'on pose un peu à tous nos invités. C'est, on voudrait découvrir finalement ta région ou ton pays dans tes yeux. Est-ce qu'il y a trois choses? Alors, je sais que sur 30, il va falloir sélectionner. trois choses que tu recommanderais à absolument expérimenter, voir si on vient en Australie pour vivre vraiment l'Australie, ouais, d'Amandine et de Bogdan.
Alors la première chose, et je sais si on est touriste, c'est un peu compliqué peut-être à faire, mais honnêtement, je pense que tout le monde devrait aller faire un bootcamp à 6h du matin dans un parc en Australie. Alors la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'en fait, ce pays est plein, mais surtout Sydney, c'est rempli de sportifs. En fait, les gens se lèvent tôt pour faire leur sport. Il n'y a pas d'excuse, en fait. Ils font ça avant le boulot parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont partir du boulot le soir. Ils se lèvent tôt, ils vont dehors parce qu'ici, on vit dehors. Et en général, les parcs ici ont des fleurs exceptionnelles. Ça sent bon. Il y en a énormément qui ont des vues sur la mer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bootcamps, ils sont jamais annulés. C'est-à-dire que s'il y a de la pluie, s'il y a de la grêle, ça se passe quand même.
Ouais, donc pas d'excuses, comme tu dis.
Non, zéro excuse. Et je trouve que, en fait, on voit des gens, dans ces bootcamps, mais j'ai rencontré des gens, et je l'ai pas fait pendant super longtemps parce qu'après, je tombe enceinte de Théo et les bootcamps, quand t'es enceinte, c'est pas super recommandé. Mais tu rencontres des gens de la coiffeuse du coin à la femme ou l'homme qui travaille à la caisse au PDG de la grosse société, quoi. Ouais. C'est vraiment tout le monde. Et je pense que l'Australie et le sport, c'est vraiment une histoire d'amour, quoi, et le fait de vivre en extérieur. Donc, les bootcamps. Ouais. la deuxième chose, ce serait, il y a plusieurs, et ça va être difficile de choisir, mais il y a plusieurs marches en bord de côte, en fait, en bord de mer, ici, qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Et ce qui est drôle, en parlant de sport, c'est qu'en fait, pour ces marches-là, il y en a plusieurs où, en fait, il y a des genres de trucs où tu peux faire du sport en extérieur. Tu sais, il y a des bars et des trucs pour faire des chin-up, pull-up, des abdos, juste avec vue sur la mer.
Les sentiers fitness de la mer, quoi.
Il y a une marche qui est très touristique, mais elle est exceptionnelle. Ça s'appelle Bondi to Coogee. Donc, Bondi Beach, qui est probablement la plage la plus connue à Sydney.
B-U-N-D-I, c'est ça ? C'est pas Bondi
B-O-N-D-I, ouais. Bondi Beach. Et donc, il y a une marche qui commence de là, qui va jusqu'à Coogee. Et elle est juste... Mais c'est magnifique, les vues sont impressionnantes. C'est des plages, c'est des falaises. Enfin, c'est juste super beau. Et d'ailleurs, pour l'expérience complète, il faut soit à Bondi, soit à Coogee aller... manger dans un café très très sain, tu sais, où ils te font des smoothies et des trucs végans et tout ça pour l'expérience totale. Et il y en a une autre que j'aime beaucoup, par contre c'est un petit peu moins facile d'accès quand t'es touriste, mais ça se fait. D'ailleurs, Bogdan et moi, on l'avait fait quand on n'avait pas encore de voiture. Ça s'appelle Bundina to Guatemala. C'est une marche qui fait bien 15 km, hein, mais c'est assez plat.
Ah, donc faut être en forme, pareil, faut s'être remis du décalage horaire.
Ouais, exactement. Mais c'est vraiment beau. C'est au sud de Sydney. C'est dans le Royal National Park et c'est magnifique. Et la troisième chose que je recommanderais, c'est un petit café qui est donc la baie Sydney. Il y a Lower North Shore, donc la partie basse du côté nord de la baie. Il y a un petit quartier qui s'appelle Kirribilli, donc K-I-2-R-I-B-I-2-L-I, avec beaucoup de I.
D'accord.
et il y a un endroit juste à côté du ferry, en fait, donc il y a quelque chose qui s'appelle Kirribilli Wharf, et il y a un petit café qui s'appelle Celsius. Et donc, en fait, tu prends ton café et tu manges avec vue sur l'eau et vue sur la mer. C'est exceptionnel, c'est petit, il y a des queues de folie, hein, donc c'est mieux de le faire en semaine. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que les Australiens et le café, c'est une histoire d'amour, en fait. C'est-à-dire que j'avais jamais vu, enfin, je connais les Français qui sont snobs avec le vin, ouais, et les Belges qui sont assez snobs avec leur bière. Mais alors, les Australiens et le café, c'est quelque chose d'autre, quoi.
Ah, c'est vrai, j'aurais jamais pensé.
Ah, ouais. Il faut que ce soit single origin, handpick, je sais pas où. Et la plupart du temps, ils le prennent pas avec du lait normal. Il faut que ce soit du lait d'amande ou du lait de je ne sais pas quoi. et en fait, les Australiens et leur café, c'est vraiment une histoire d'amour. Et donc, le fait que c'est un petit café qui est très sympa. Et le fait que ce soit juste à côté du ferry en Bordeaux, c'est vraiment magique.
Une expérience sympa, quoi. Ah, c'est cool. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Moi, je sais que la dernière fois que je t'ai vu, d'ailleurs, c'était à Sydney, il y a quelques années.
Oui.
Et je sais que j'ai beaucoup aimé cette ville. Amandine, on arrive à la fin de notre épisode. On a tellement de choses à se dire, je te garderai bien, mais malheureusement, on approche de l'heure d'épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
un bon déménagement. Je pense que pour être honnête, moi, ce que je voudrais, c'est que mon mari trouve un travail. Comme je disais, mon mari parle anglais et roumain. Le français, il se débrouille, mais il va falloir qu'il réussisse à trouver un travail donc au Luxembourg sans parler soit français, soit allemand. Bon, après, il est génial, je sais qu'il en trouvera un, mais ce serait bien. Et l'autre chose, bon, mon petit Noah, il a 6 mois, il comprendra pas ce qui se passe, mais mon grand Théo, en fait, il est très patriote, il est très fier d'être australien. Il refuse d'ailleurs même de me parler français. En fait, quand je lui demande de me parler en français, sa réponse préférée, c'est « Mama, you are French, I am Australian ».
Oh, wow.
Ouais. Et il me montre les drapeaux australiens dans la rue et il me dit que c'est son drapeau, c'est son pays. Enfin, en fait, il aime sa vie ici, il aime ses amis. Et pour un petit 4 ans, en fait, il est très, très attaché à son pays et ses amis. Ouais. Donc, si vous pouviez juste me souhaiter une transition sympa pour mon petit bout d'amour,
carrément. Ce serait bon. c'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite à fond. Écoute, un grand, grand, grand merci. Franchement, c'était passionnant comme conversation. Si nos auditeurs veulent continuer la conversation avec toi, suivre ton retour ou suivre ton countdown des choses qui vont te manquer en Australie, ils peuvent te trouver sur les réseaux sociaux.
Le mieux, c'est Instagram. Donc, c'est Amandine_in_Oz. Donc, Amandine en Australie, quoi. c'est probablement ce qu'il y a de mieux, ouais.
Ok. Est-ce que ton handle va changer une fois que tu seras rentrée en France?
Non. Non, je change pas celui-là. Je suis toujours, comme je te dis, on reviendra probablement en Australie. Je sais juste pas quand. Est-ce que c'est dans 2, 5 ou 10 ans? Je sais pas. Mais on reviendra ici.
Bah, c'est super. Écoute, vraiment un immense merci. J'ai adoré notre conversation. J'ai adoré voyager au travers de tes histoires. Je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt, j'espère.
Merci beaucoup, c'était super. Ciao, ciao.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un avis sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée, c'est le meilleur moyen de nous aider. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions, ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, ou même LinkedIn, French Expat, le podcast tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, direction notre site web frenchexpatpodcast.com. Le prochain épisode, c'est avec Laetitia et quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours. Excellente semaine à tous et à très bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.